C'est l'heure de la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Roxane, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et cofondatrice du projet Intercom. Ça va bien, Roxane?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, merci. Alors aujourd'hui, votre sujet, utiliser l'art, ART, pour avoir des conversations entourant les changements sociaux dramatiques. C'est une chronique qui a été préparée en collaboration avec Marjolaine Rivet-Beauregard, candidate au doctorat en recherche en santé mentale à l'Université McGill.
Exactement. Donc, au cours des dernières années, nous avons été collectivement confrontés à plusieurs changements sociaux dramatiques qui ont été associés à des impacts psychologiques importants, des impacts sociaux aussi. On peut facilement penser à la pandémie durant laquelle on a été confinés, mis en quarantaine, au rythme des cycles de des infections, une période qui a été remplie d'incertitudes et de deuils qui laissent aujourd'hui encore des traces. Plusieurs aimeraient enfermer cette expérience difficile dans une boîte, loin de l'esprit, loin du danger. Mais cependant, tenir des conversations collectives pourrait peut-être être un moyen important pour se rétablir, apprendre et se préparer individuellement et collectivement à de futures crises. Parce qu'on parle de ça souvent, hein, aujourd'hui, de futures crises, ouais. C'est dans les médias constamment.
Comment on peut avoir une réflexion collective sur ces crises sans pour autant brusquer ceux et celles qui ne souhaitent pas en parler?
Bien, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Marjolaine, justement, puis une équipe de recherche. Puis c'est pour ça que dans cette chronique, je vous présente l'un des moyens. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Donc, les musées et les expositions artistiques. Selon la recherche, ces espaces auraient la possibilité de promouvoir la guérison psychologique, la connectivité sociale et la régulation émotionnelle. Par exemple, en Chine, il y a 27 visiteurs et visiteuses d'un musée d'exposition numérique, le China Grand Canal Museum, qui ont pris part à des entrevues afin d'identifier différentes dimensions du bien-être psychologique. Donc, ce musée numérique aurait agi comme catalyseur du bien-être, entre autres dans l'engagement émotionnel à travers les expositions, l'immersion sensorielle, l'éloignement du stress au quotidien, l'inspiration aussi qui est générée par les expositions, puis finalement, une meilleure compréhension des expériences d'autrui. Il y a un des participants qui rapporte, par exemple, avoir beaucoup de stress dans sa vie, puis qui a dit « ben venir ici me fait sentir plus ouvert d'esprit et me permet d'élargir mes horizons. C'est une forme de relaxation ». En plus de favoriser le bien-être, ces initiatives peuvent s'avérer thérapeutiques puis sont particulièrement efficaces lorsque les besoins des communautés visées sont bien identifiés. Par exemple, il y a un groupe de jeunes adultes qui vivent avec des difficultés de santé mentale sévères qui a suivi un programme de 18 semaines qui incluait des visites thématiques hebdomadaire, donc à chaque semaine, accompagné par des art-thérapeutes dans un musée d'histoire et d'artefacts. Donc, à la suite de chacune de ces visites, les participants prenaient part à une session de création artistique, puis ils partageaient leur travail. Donc, les jeunes adultes ont rapporté que le programme leur a permis de faire des liens avec leurs expériences et leurs émotions, de se sentir plus connectés avec le monde à l'extérieur des services en santé mentale reçus. Finalement, il y a un autre programme qui a été mené dans un musée d'art public au Royaume-Uni qui a invité un groupe de 6 personnes qui ont vécu une expérience importante de psychose, donc à participer à 4 sessions hebdomadaires. Puis pendant ces sessions, il y avait un ergothérapeute qui les accompagnait dans l'exploration de l'exposition, des œuvres du musée, dans l'objectif de créer des liens avec leur propre expérience. Donc, les résultats ont montré que ces visites ont aidé à changer les stéréotypes négatifs liés à leur diagnostic. C'est quand même un diagnostic qui est difficile à avoir, comme l'idée que ce diagnostic est permanent ou que l'identité d'une personne est liée à ce diagnostic. Donc, en plus, les personnes participantes ont suggéré que le programme leur a permis de prendre un pas de plus vers leur établissement, le rétablissement, pardon. Puis il y a même un participant qui a dit « une autre étape de fête dans un long voyage ».
Wow, c'est, tout ça est positif. Est-ce que l'efficacité d'exposition de visite de musée a déjà été montrée dans le contexte de la pandémie?
Ça a été montré. Nous avons trouvé très peu d'études sur ça, mais il y a quand même des études qui ont été faites. Il y en a une, entre autres, qui s'est avérée bénéfique sur... qui a montré que ça, c'était bénéfique sur le plan psychosocial. Par exemple, avec le mouvement vers les technologies digitales pendant la pandémie, il y a un groupe de recherche qui a conduit une étude pilote avec 24 participants qui ont répondu à un questionnaire avant et après leur visite du musée pour mieux comprendre leur engagement et aussi leur bien-être. Les résultats de ce projet montrent qu'il y a eu une amélioration du bien-être. Par exemple, les personnes qui participaient à la recherche rapportent plus d'émotions positives, comme se sentir inspiré, et moins d'émotions négatives, comme la nervosité, après la visite du musée comparativement à avant. Par contre, Hélène, c'est important de noter que les études que je vous ai présentées ont toutes été faites avec des petits groupes de participants qu'on appelle des groupes pilotes, puis qui utilisent principalement des méthodologies qualitatives et ces groupes-là, souvent, n'ont pas été comparés avec des groupes contrôle. Donc, pour qu'une étude soit vraiment considérée comme étant solide, il doit y avoir un groupe expérimental, par exemple, les participants qui auraient visité un musée, qui seraient comparés avec un groupe contrôle dont les participants n'auraient pas visité le musée.
Ah, c'est ça, un groupe contrôle.
Exactement. Donc, ils pourraient avoir fait la visite d'une école, par exemple, ou rien fait. Mm-hmm. Donc, on les compare parce qu'on veut s'assurer que le changement qu'on observe, dans ce cas-ci, par exemple, les émotions, bien, que ce soit vraiment lié à la visite du musée. Donc, nos connaissances sur l'efficacité de ces initiatives sont limitées par des données qui sont, à ce jour, principalement exploratoires. Mais tout de même, dans des contextes de changements sociaux dramatiques, la visite d'expositions artistiques, comme dans un musée, pourrait permettre aux visiteurs d'exprimer, de traiter les émotions liées à ces événements. L'exploration du potentiel de ces visites et expositions artistiques en lien avec la pandémie doit quand même se poursuivre sur le plan de la recherche.
Et Roxane, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens-là là, au Québec?
Oui, bien en fait, je voulais vous parler d'une initiative, puis c'est celle de Marjolaine, là, l'étudiante avec qui j'ai écrit cette chronique, et d'une équipe de recherche aussi qui s'est intéressée justement aux discussions qu'on pourrait y avoir dans des contextes de crise, puis au rôle de l'art dans ces discussions-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé au PréCrisa, qui est un réseau de prévention des crises en santé, et à une artiste aussi, Cécilia Torres, pour créer un projet appelé « Trajet collectif ». Puis pour ce projet, Cécilia a créé des œuvres inspirées de données scientifiques sur le bien-être, par exemple, qui seront exposés à la Maison du développement durable le 6 et le 7 février, aux côtés de résultats de recherche qui proviennent d'histoires en lien avec la santé mentale partagées pendant la pandémie. Donc, l'événement a pour objectif de se rassembler, de prendre un moment ensemble pour réfléchir sur la pandémie, peut-être de la sortir un petit peu de la boîte là, dont je vous parlais, et de discuter de notre santé mentale et trouver des propositions pour améliorer la santé mentale dans un contexte de grand changement. Donc, notre objectif est de créer un environnement qui est sécuritaire, dans lequel la communauté peut avoir des discussions, des réflexions sur la pandémie. Il y aura évidemment des sentinelles sur place, donc des gens qui ont reçu une formation dans le domaine de la relation d'aide pour aider ceux et celles qui pourraient en ressentir le besoin de parler. Donc, je souhaite donc prendre un moment pour vous inviter formellement à vous joindre à nous pour se rassembler, réfléchir ensemble. Moi, j'y serai le vendredi le 6 et Marjolaine va y être les deux journées. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir de rencontrer les auditeurs, les éditrices de l'émission. Puis cet espace nous rappelle que l'on n'était pas seul dans le contexte de changement dans la pandémie et que, aussi, nous pouvons réfléchir ensemble.
Se cultiver, se faire du bien, joindre l'agréable à l'agréable. Pourquoi pas? C'est à la Maison durable, oui. Si je ne m'abuse, c'est sur Sainte-Catherine.
Dans le centre-ville, près du métro Saint-Laurent,
oui.
Si je ne me trompe pas. Oui.
Bel endroit. Merci beaucoup, Roxane. L'information va être disponible sur le site web de l'émission. L'événement est gratuit. et se tient à Montréal, donc à cette maison, les 6 et 7 février. Pour vous rencontrer, Roxane, vous y serez le 6?
Oui, exactement.
Parfait. Et pour rencontrer votre collègue avec laquelle vous avez créé cette chronique, elle y sera, elle, les deux jours. Ce que je retiens, c'est que se préparer aux crises futures passe aussi par notre capacité à revenir sur nos propres expériences de manière créative et en tant que société. L'art, c'est fantastique. Merci. Merci, Roxane de la Sablonnière.
Merci.
À la prochaine.
Merci, Hélène.